Bonjour à tous, bienvenue sur The Teenager Talk. C'est une nouvelle émission qui vise tout particulièrement le jeune public. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une excellente équipe de chroniqueurs qui seront avec moi tout au long de l'émission. On va commencer d'abord par le micro-couleur avec Mariam, ensuite Plamedic nous présentera l'interview d'un youtubeur. Puis un grand débat aura lieu sur la question « Pensez-vous que la télé-réalité apporte quelque chose aux jeunes ?» Pour finir, nous accueillerons Ivana pour le moment d'histoire sur l'apparition de la mini-jeu. Poursuivons avec le micro-couloir de Mariam.
Donc bonjour à tous, je vais vous présenter mon micro-couloir. J'ai interrogé des élèves du lycée pour avoir une estimation générale sur la thématique suivante. Combien de fois utilises-tu ton téléphone par jour? Et à ton avis, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont-ils aussi accros au smartphone? On a choisi ce thème pour que vous vous rendiez compte à quel point les téléphones, smartphones sont indispensables, à la limite du vital pour la plupart des jeunes. Et cela au-delà du fait de communiquer. Donc la première question que j'ai posée est combien utilises-tu ton téléphone par jour? Combien de temps utilises-tu ton téléphone par jour?
Ben, je passe beaucoup de temps, tout le temps. Beaucoup d'heures.
J'ai environ beaucoup de temps sur mon téléphone, je vais l'avouer.
Plus de 10 heures sur mon téléphone.
Je passe beaucoup de temps sur mon téléphone. Des fois, je vois même pas le temps passer.
Beaucoup trop. Genre en heure. Oh là, 5 heures. 5 heures
par jour?
Ouais, même plus.
Ça dépend en fait, le soir plutôt. Et peut-être 2 heures avant de dormir. Mais j'ai diminué mon temps sur mon portable parce que au niveau de l'école, etc., c'est pas très efficace.
Et la deuxième question est, à ton avis, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont-ils aussi accros au smartphone?
On a grandi avec, et parce qu'il y a plusieurs réseaux sociaux, et parce qu'on peut parler, il y a plusieurs trucs en fait. C'est comme la drogue un peu, c'est une addiction.
Les gens ont inventé des applications qui nous permettent de nous développer, d'être à l'actualité et de nous renseigner. Enfin voilà, le téléphone est très important pour nous.
En fait, je pense que s'il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, le téléphone ça servirait à rien pour nous.
À part
les petits trucs vieux jeux, mais sinon, je pense que voilà, donc à cause des réseaux sociaux, le téléphone est devenu primordial dans la vie des adolescents.
Parce qu'on fait tout dedans. Genre, il y a toute notre vie pratiquement dedans. Ouais, on communique trop avec les gens. Il y a trop les réseaux sociaux, ils sont trop importants.
Ça nous bouleverse tellement, enfin, on est focalisé sur ça, on aime trop les écrans.
Bah, tu t'imagines, toi, si t'as pas de téléphone, tu ferais quoi de tes journées? C'est la vie, les téléphones, c'est comme la bouffe.
On peut donc constater que les avis sont similaires, qu'ils se rejoignent fortement, et ils nous montrent l'importance que les téléphones ont sur les jeunes.
Merci Mariam, on va continuer avec notre débat dont la question est: pensez-vous que la télé-réalité apporte quelque chose aux jeunes? Mariam et Ivana, c'est à vous.
À qui donnes-tu la parole en premier lieu?
Ivana.
D'accord. Donc la thématique suivante, c'est: pensez-vous que la télé-réalité apporte quelque chose aux jeunes? Non, je ne pense pas que la télé-réalité apporte quelque chose aux jeunes, je vais vous expliquer mon raisonnement. Premièrement, c'est une perte de temps. Les jeunes qui regardent la télé-réalité souvent oublient de faire leurs devoirs, voire ne les font pas à cause de la télé-réalité. Donc oui, c'est une perte de temps. Généralement, ils ont une tonne de devoirs, doivent réviser, mais au moment de les faire, ils préfèrent aller devant W9 pour regarder les Marseillais ou autres. Ils font également passer leurs devoirs d'élèves après la télévision. C'est absurde.
Vrai. Non, vous pouvez continuer.
D'accord. Deuxièmement, les enfants qui regardent ces programmes télévisés n'ont aucun esprit critique, reproduisent ce qu'ils voient, même si parfois ils savent que les images sont truquées. Ils n'ont pas tous ce recul pour analyser avec sang-froid les images qu'ils viennent de voir. La télé-réalité n'apporte aucune culture, si ce n'est que la culture des âneries. La télé-réalité, c'est très dangereux car les valeurs, les messages qui sont véhiculés sont dangereux pour des jeunes qui sont en pleine construction de leur identité. Les jeunes se calquent sur ce qu'ils observent, s'enferment dans des cases. Aujourd'hui, les stars de la télé-réalité ont une influence sur les adolescents, que cela soit sur le style vestimentaire, le comportement, la façon de penser, notamment par des phrases choc qui restent dans nos têtes. En conclusion, pour moi, la télé-réalité n'apporte rien. Je comprends que parfois les jeunes ont envie de se poser devant la télé-réalité pour se détendre. Il n'y a aucun problème face à cela, mais il y a d'autres façons de se détendre, comme en lisant un livre, faire une activité extrascolaire, jouer d'un instrument. Mais avant de se détendre, il faut finir ses devoirs à bon attendeur.
On va laisser la parole à Mariam.
Donc oui, je pense que la télé-réalité apporte quelque chose aux jeunes. Parce que les gens oublient souvent que la télé-réalité est avant tout divertissante. Échappatoire pour certains, elle leur permet d'oublier et même de relativiser leur quotidien en regardant celui des autres. Le téléspectateur peut se comparer au candidat et se rendre compte qu'il n'est pas seul face à certains problèmes, que ce soit pour les conflits familiaux, la dépression et autres. Ces émissions sont comme des séries télé, mais en vrai. Il s'agit de réelles histoires d'amour, de réelles trahisons, de réelles discussions de famille, etc. Ce ne sont pas des acteurs qui jouent un rôle, mais des personnages qui vivent simplement leur vie. Ainsi, les téléspectateurs, et notamment les adolescents faisant partie des jeunes, peuvent s'identifier facilement à ces personnages qui ne sont pas créés de toutes pièces. Enfin, la télé-réalité peut jouer un rôle pédagogique. Par exemple, au Brésil, le joueur de foot Ronaldo a été à l'origine d'une émission nommée « Medida Certo », où l'on a pu suivre sa perte de poids. Le programme a été créé afin de sensibiliser la population brésilienne aux problèmes d'alimentation et d'obésité, notamment chez les jeunes.
Il est vrai qu'une grande partie des jeunes regardent la télé-réalité. En effet, les émissions sont nombreuses et de qualité variée, et qu'il y a pas mal de mises en scène. Il faut savoir se faire plaisir et garder de la distance par rapport à ça. Merci à vous deux. On va maintenant continuer avec l'interview de Plamedi, d'un youtubeur.
Donc, bonjour. Nous pouvons voir avec les jeunes de la nouvelle génération qu'ils sont beaucoup plus attirés par les réseaux sociaux et aussi par YouTube que les anciennes générations. Cet univers audiovisuel a en effet beaucoup de succès auprès des jeunes. Nous allons la découvrir aujourd'hui. Pour répondre à nos questions, nous avons interviewé un jeune adolescent qui lui vient de débuter sur YouTube. Il nous fera part de ses connaissances sur ce monde parallèle. Écoutons Boris.
Boris.
Bonjour.
Donc, pour commencer, pourquoi as-tu voulu faire une chaîne YouTube et quelles ont été tes motivations pour la faire?
Alors, mes motivations, en fait, ont été genre par envie. C'est parce que je voulais le faire, en fait. C'est un monde assez différent que beaucoup de gens connaissent, mais par exemple que les adultes ne connaissent pas encore. Mais je voulais vraiment faire ça par envie, je voulais faire quelque chose de nouveau, et c'est un projet qui me tient à cœur.
Comment fait-on pour avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube?
Alors, beaucoup d'abonnés, c'est pas le plus important sur YouTube. Le plus important, c'est ce que tu partages. C'est vraiment pas le plus important, en tout cas, le nombre d'abonnés. Beaucoup de gens se fixent sur ça, mais c'est vraiment pas le plus important.
D'accord. Quels sont les matériels à utiliser pour pouvoir faire des vidéos?
Moi, j'utilise une caméra. Mm-hmm. Enfin, avant, ce qu'on faisait avant, c'était à l'époque, en 2007, on utilisait, les caméras pour les jeux, tout ça, les petites caméras. Mais c'était des caméras. Maintenant, il faut que ce soit professionnel. Malheureusement, tout le monde veut une qualité, une grande qualité. Et les gens ne veulent pas regarder si c'est pas une bonne qualité, s'il n'y a pas un bon audio. Mm-hmm. Voilà.
Donc, si on n'a pas les appareils qu'il faut, donc...
On ne peut pas le faire, ouais.
D'accord.
Maintenant, en tout cas. Mm-hmm.
Si tu parviens à être célèbre grâce à ce site web, seras-tu rémunéré avec...
C'est un peu débat. Tout le monde veut savoir sur YouTube combien d'argent on gagne ou encore tout ça. Mais le problème, c'est que c'est pas le plus important. Et l'argent, il y en a, ils ne gagnent pas beaucoup. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a des gens, peut-être qu'ils ont peut-être 10 millions d'abonnés, ils vont gagner. Mais en tout cas, les gens qui n'ont peut-être que 1 million ne vont toujours pas gagner de l'argent. Voilà, c'est juste pour le plaisir et pour partager ce que tu fais.
Ok, d'accord. Est-ce compliqué de faire une chaîne YouTube et de pouvoir se faire accepter par les internautes?
Alors, ça dépend. Moi, en tout cas, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Mais pour des gens, je sais que c'est compliqué, ouais. Mm-hmm. C'est dur parce que les gens ne comprennent pas pourquoi tu fais des choses différentes, tu vois.
Mm-hmm. Bah, pour finir, quels conseils pourrais-tu donner à ceux ou celles qui veulent faire une chaîne YouTube?
S'ils veulent le faire, qu'ils le fassent par plaisir, qu'ils le fassent pas parce qu'ils veulent être célèbres ou qu'ils veulent avoir de l'argent. Mm-hmm. Qu'ils veulent se faire plaisir. Et si par exemple tu veux faire du maquillage, mm-hmm. ou si tu veux partager ce que tu fais en cuisine, mm-hmm. que tu le fasses. D'accord. Comme ça, les gens, ils le partagent.
Merci beaucoup, Boris, d'avoir répondu à nos questions.
De rien.
En conclusion, dans ce que Boris vient de nous dire, nous pouvons retenir que dans ce genre d'univers, il ne faut pas avoir peur des critiques d'autrui. Il faut croire en soi et faire ce qui nous plaît pour le plaisir de le faire et pour partager notre univers avec ceux à qui ça intéresse.
Merci Plamedi. Et pour finir, on va laisser la parole à Ivana pour le moment d'histoire sur l'apparition de la mini-jupe.
Comme l'a dit notre animatrice, ce moment d'histoire sera consacré à une révolution pour les femmes, la mini-jupe. La mini-jupe est un vêtement qui fait son apparition en 1962. Elle a été confectionnée par la styliste Mary Quince à Londres. Ce modèle connaît un succès phénoménal, développant une nouvelle mode vestimentaire et devenant le symbole d'une nouvelle génération de femmes. Cet accoutrement s'appelle la mini-jupe parce que Mary Quince raffole de la voiture du même nom. Ce vêtement entre dans l'histoire pour de nombreuses femmes. Il est libérateur dans le sens où les femmes peuvent s'habiller comme elles l'entendent et par la même occasion s'émanciper de l'autorité des hommes. En effet, dans les années 60, les femmes doivent s'habiller avec des jupes longues ne dépassant pas le genou pour ne pas avoir des tenues jugées indécentes. Il y a également des manifestations organisées afin d'obtenir le droit de porter la mini-jupe, notamment à New York en 1970. Deux camps s'affrontent, les conservateurs et les conservatrices qui affirment qu'une femme doit porter une jupe longue et les progressistes qui pensent que la liberté de la femme réside dans le choix de s'habiller comme elles l'entendent. Puis la mini-jupe se diffuse également grâce à la culture cinématographique. On se souvient tous encore du film « Et Dieu créa la femme » de Roger Vadim où l'actrice Brigitte Bardot apparaît en mini-jupe. Aujourd'hui, chaque année, une journée de la jupe est organisée le 19 juin afin de lutter contre les inégalités hommes-femmes. Pour afficher son soutien à cette cause, il suffit simplement de porter une jupe. Ce moment d'histoire est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et vous a appris de nombreuses choses. Merci, au revoir.
Et voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Nous vous remercions de nous avoir consacré du temps pour nous écouter. Et nous vous souhaitons une bonne après-midi. À vendredi prochain.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.